ever's visions of documentary cinema, RIDM is the festival not to miss.
From November 15 to 26 in Montreal.
Go to ridm.ca to find out everything about the festival's program.
The Montreal...
Bonsoir et bienvenue à une autre émission de Lesbosonde sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Nathalie Dupalma au micro. Au cours de cette émission, nous allons recevoir Éliane Bonin pour nous parler de la pièce de théâtre Les Érotisseries, qui est présentée à l'Espace Libre jusqu'au 9 décembre prochain. Ensuite, pour souligner les 20 ans de La Maline, vous entendrez une entrevue que j'ai faite il y a à peu près ça, 20 ans, avec Marie-Jo Thériault, qui était venue nous rendre visite en studio. Cette entrevue a été enregistrée sur une cassette au départ, et c'est grâce aux archives lesbiennes qui sont en train de numériser les émissions que nous avons fait depuis 1995 que je peux ce soir vous faire réentendre cette entrevue. Un grand merci aux archives lesbiennes et on s'en va tout de suite en musique avec Roxane Bruno et on revient avec notre invitée Éliane Bonin.
Même si le gars coûte cher, je vais fouler mon genre. J'ai besoin de prendre l'air puis de partir quelque part. On m'a trop souvent dit, c'est comme ça, c'est la vie. Pourtant, moi, je veux autre chose. Je veux partir d'ici. Si je manque d'essence, je le ferai en courant. Je me laisserai pas crever dans une vie en noir et blanc. J'ai envie de couleur, j'arrive plus à faire semblant d'être à la bonne place et au bon moment. Si jamais on me cherche, je suis parti. Bon, je vais pas laisser d'adresse. Je sais pas où je vais.
Notre invitée, Éliane Bonin, est la fondatrice des productions Carmagnol. Elle est avec nous pour nous parler du spectacle de cirque multidisciplinaire Les Érotisseries, essai érotique consensuel. Bonsoir, Éliane Bonin.
Bonsoir. En fait, je corrige tout de suite, je suis une cofondatrice très non officielle. Ça a été très, très long, mon implication sur le terrain à la très DIY. C'est un gros collectif qui existe depuis très longtemps.
OK.
Avant qu'on devienne plus officiel et qu'on existe pour le commun des mortels avec une formule administrative enregistrée en bonne et due forme. Moi, je suis restée du côté punk dans l'ombre très longtemps.
OK. Donc, les productions Carmagnol existaient déjà quand tu es arrivée?
En fait, on a co-créé. C'était une idée de faire exister un projet qui soit plus underground, plus alternatif, artiste plus humain, plus social, plus accessible, parce qu'on trouvait que le cirque au Québec était trop corporatif pour nous à l'époque. On trouvait ça triste que ça soit du showbiz, puis du corpo, puis que ça soit élitiste, puis que faut être stampé d'une école,
okay.
Et puis avoir un niveau technique. Nous autres, on voulait que ça soit vraiment plus comme une histoire communautaire, puis dans notre parcours plus alternatif, anarchiste. En Europe, dans les squats, il y avait ça, des petits projets de théâtre invisible, des projets activistes avec des propos, des shows de feu,
okay.
D'organisations plus alternatives, là, qui marchandaient pas du tout ou quoi que ce soit, là, qui étaient porteurs de messages puis rassembleurs.
Et le spectacle dont tu viens nous parler aujourd'hui, Les Érotisseries, a été présenté en Sable Comble à l'Espace Libre en 2022. Il revient en force cette année au même théâtre du 21 novembre au 9 décembre prochain. Et le spectacle que vous présenté et porté par trois femmes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette création?
Eh boy, ben c'est une étape, c'est un chapitre de ce long projet-là quand même. Carmagnol existe depuis 2001. On faisait des carnavals dans la forêt, mais on faisait aussi des parties de gang dans des lofts. On se faisait des petits shows clandestins, des levées de fonds. On n'avait pas de financement, puis on faisait juste, c'était tout en autogestion, puis c'était tout du bénévolat. Puis souvent, quand on faisait des perfos dans les parties, c'était très edgy, là. C'est là qu'on se mettait tout nu, on se déguisait, on faisait des niaiseries sur le stage. Puis à un moment donné, c'est ça qui a fait naître le projet en 2005, c'est en se disant, ben voyons, il y en a un public pour ça à Montréal. On n'est pas à Berlin, mais pourquoi ça n'existe pas? Une scène 18 ans et plus pour notre genre de goût, là, qui soit pas liché, qui soit pas stéréotypé, qui soit pas commercial, puis qui nous ressemble au niveau d'être osé, au niveau artistique, puis au niveau humain, puis au niveau érotique aussi. Okay. Fait qu'on s'est mis à créer des Érotisseries en 2005. Il y en a eu trois éditions distinctes avec des castings qui changeaient, puis des équipes. Il y a comme une base de l'équipe qui est restée dans le temps. Jusqu'en 2014 et 2015, les éditions au Théâtre La Chapelle. Il y avait Mathieu Riel puis moi qu'on était restés aussi. Puis là, cette nouvelle édition-ci, il faut savoir qu'elle a été retardée d'année en année. Une année pour les rénaux, puis deux années pour la COVID. Tu t'imagines que le processus artistique, il a vraiment bifurqué puis s'est passé beaucoup de choses dans la vie personnelle des uns et des autres. Ce qui fait qu'il y a un performeur masculin qui s'est retiré. Puis Mathieu Riel s'est retiré aussi pour des raisons personnelles et familiales. Mais tout ça pour dire que c'est un concours du hasard qui a fait en sorte que finalement, on est trois artistes féminines principales dans cette création-là. Puis on s'est dit, aïe, aïe, fuck, c'est tant mieux, c'est de ça qu'on a besoin, puis c'est parfait de même, tu sais. C'est pas ça qu'on aurait choisi à la base, mais après coup, on a fait, aïe, aïe, c'est parfait, tu sais, vraiment. Puis on a rajouté deux artistes de soutien qui sont masculins dans la troupe. Et franchement, c'était juste parce que on est trois filles en constant quick change en arrière, puis des fois, ben nos quick change prennent trop de temps. Puis il y a plein de manipulations de stage parce que on fait aussi du cirque. Je dirais pas que c'est un show de cirque, mais on fait aussi du cirque, c'est-à-dire qu'on utilise des agrès de cirque et des disciplines de cirque pour s'exprimer, puis pour bouger notre éros sur la scène. Fait que tu sais, il y a une pole, il y a des sangles aériennes, il y a une corde lisse, il y a du feu, il y a des fouettes. Fait qu'il y a beaucoup de logistique, tu sais, faut rentrer des bébelles sur stage, les sortir. Fait qu'on a besoin de stagehands avec bonus, tu sais, c'est comme un peu des stagehands avec extra, où est-ce que c'est comme, mais là, faut aussi combler un genre de une minute et demie où est-ce que personne n'est dispo pour être sur stage. Fait qu'on voulait des artistes qui peuvent nous assister aussi. Puis là, c'est en train de devenir de plus en plus vivant. Mais reste que c'est des entre-scènes desquelles ils sont responsables. C'est tout aussi délicieux. Cette année, c'est quelque chose qui m'enchante quand même, le fait que ces parties-là se mettent à exister pour de vrai, je dirais. Parce que l'année passée, c'était à l'entrée en salle par rapport à bouger les affaires dans le vrai décor qu'on voyait combien de temps prenaient les décisions. Il y a plusieurs scènes qui sont créées on the spot pendant l'entrée en salle.
Et c'est quoi le but ultime de ce spectacle?
Oh my God! Ben, c'est de sauver le monde. Si je veux répondre sans faire de détour, c'est de sauver le monde, ultimement. C'est quand même tout le temps ça le but. Puis en se faisant du fun, c'est-à-dire que pour sauver le monde, il faut se faire du fun, il faut réapprendre à connecter avec nos besoins puis nos libertés, Chris, je veux dire. Tu sais, l'éros, là, c'est porteur de tellement de trauma, malheureusement, plutôt qu'être comme un symbole de célébration et d'émancipation pour beaucoup de monde, c'est donc ben dommage. Tu sais, c'est comme, c'est plate, là, tu sais, je veux dire, le monde s'engueule dans la rue, tu sais, on est exposé à de la violence souvent, puis si on voit des gens s'érotiser, là, tu sais, déjà, comme quelqu'un qui se freine sa pleine bouche, t'es comme, oh, get a room, get a room. Mais tu sais, je veux dire, on va facilement être bien plus choqué par de l'obscénité de monde qui vont s'attraper par les parties génitales à travers le pantalon en frenchant dans la rue qu'on va comme soutrer des engueulades qui se passent dans la rue si on est complètement habitué. Fait que de banaliser à ce point-là la violence, puis de faire encore un tabou aussi choquant de l'expression de l'éros, de la pulsion de vie, du désir, de l'engouement, d'avoir envie d'être fusionnel avec soi-même, les autres, l'autre ou les autres. Pour nous autres, il y a comme quelque chose à débloquer. Puis vu qu'on est trois artistes principales avec chacune nos trames de découverte, d'exploration très intimes, très distinctes, ouais, et multiples, chacune, chaque femme, on est multiple, ben il y a beaucoup de contraste dans le show. Là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contraste. Je pense que c'est là que c'est guérisseur, c'est que on fait voyager le monde, puis on déstabilise aussi, fait que ça l'ouvre à notre vulnérabilité, puis on aborde la question avec tellement de bienveillance que même des gens qui sont très pudiques réussissent à regarder le show de A à Z, puis font comme « wow, ça me donne envie de m'ouvrir à me demander qu'est-ce que je veux, moi, c'est quoi mes désirs, c'est quoi mes fantasmes, c'est quoi les pratiques que je m'empêche juste parce que, coudonc, je suis gênée, j'ai des jugements, c'est quoi, j'ai honte, je me sens-tu coupable de quelque chose, est-ce quelque chose qui est mal dans qu'est-ce que je fantasme, est-ce que j'ai des fantasmes, est-ce que je me permets de fantasmer? » Tu sais, on a des carrières, on se demande c'est quoi la prochaine étape de mes études, de ma carrière, de ma vie personnelle, de ma vie familiale, de ma vie relationnelle, de ma vie capitaliste. Liste, je m'achète une maison, je déménage-tu dans un appart? Tu sais, qui c'est qui s'arrête dans la vie à se poser la question, bon, qui c'est que je veux devenir au niveau érotique, au niveau relationnel, au niveau de l'expression de mon désir de vivre, de ma pulsion de vivre, de ma création, de ma créativité? Tu sais, faire un bébé, c'est une chose, mais créer son éros, c'est crissement plus large que procréer de nos jours, là, faut se le dire. Là.
Puis ça faisait partie de mes prochaines questions, parce qu'il faut dire que les érotisseries sont présentées dans une nudité intégrale. Est-ce que ça a été un enjeu pour les comédiennes au fil des années? Et mon autre question, c'est de savoir comment c'était reçu du public. Tu viens de l'expliquer un petit peu, puis c'est réjouissant de savoir que c'est aussi bien reçu. Mais pour les comédiennes au fil des années, est-ce que ça a été un enjeu? Est-ce que tu as eu de la difficulté à trouver des comédiennes qui acceptaient de jouer nues?
Ben en fait, c'est pas qu'on trouve des comédiennes pour jouer nu, c'est que les érotisseries, c'est chaque personne fait des propositions, puis fait une recherche, puis après ça, on fait un collage,
okay,
puis on regarde qu'est-ce qui nous parle dans des enchaînements, puis tu sais, on en a fait là des après-midi de post-it, puis mettre les choses dans les blocs dans un ordre, puis dans un autre, puis ça fait pas de sens, puis ça on va mettre ça dans tel sens, puis dans tel ordre,
okay,
puis là pour la logistique, ça serait mieux de même, mais ça fait aucun sens pour moi, ma trame. Moi, je peux pas faire telle scène avant telle autre. Pour moi, ça c'est l'apogée de mon trajet, de mes scènes, c'est ça, pour toi c'est ça, ok cool. Puis là, on construit une trame ensemble. Le matériel, c'est chaque personne qui choisit de l'amener. C'est consensuel dès la racine du projet. C'est sur quoi je cherche en ce moment. Puis à quel point je veux lier mon histoire personnelle intime, puis amener des blocs sur scène ou des questionnements où je me sers de la scène pour me permettre puis me donner une excuse d'aller chercher des choses vraiment extravagantes que j'ai jamais exprimées dans ma vie sexuelle personnellement intime, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que tu sais, je vais te dire, il y a une artiste, Marie-Christine est plus pudique que Catherine, puis moi, on est complètement exhibitionniste. On va se foutre à poil pour le fun, tu sais. Fait que de s'amener sur scène dans la nudité, on le faisait déjà. C'est nous autres qui choisissons de le faire. Après ça, si j'ai déjà décrit, en parlant du spectacle, qu'on fait des acrobaties émotionnelles, mais c'est véritable, tu sais. On a pris des risques de s'amener dans notre vulnérabilité, ouais, en révélant des trucs de l'intime. Mais aussi, moi, j'aime ça. J'aime ça surfer les edges. J'aime ça surfer la zone jaune. J'ai un guide qui en parle très habilement comme ça, là, de genre, dans ta zone verte, t'avances pas, tu te connais, t'es en zone de confort. En zone rouge, tu te blesses, tu vas comme touiller tes traumas, tu vas te blesser, ça te tente pas pantoute, c'est danger, mais la zone jaune, c'est là qu'on agrandit notre zone de confort, c'est là qu'on questionne nos limites, qu'on se demande où est-ce qu'on veut aller pour être plus libre. Fait que moi, je l'aime, cette zone jaune-là, puis je voulais y goûter, là, je veux dire, à toutes les fois qu'il y a un projet de création, c'est là que je veux aller. Pour être utile à la société, Chris, je me dis que ce que je me permets à moi, ça va parler aux autres de zones d'ombre crissement plus profondément enfouies dans LE, tu sais, en mm-hmm. disant que oui, on se garde des secrets face à soi-même, puis on n'est pas prêts tous les jours à se rencontrer dans notre vulnérabilité, puis on n'est pas prêts tous les jours à se rencontrer dans notre puissance décadente et absolue non plus. Fait que c'est le fun d'être témoin de femmes sur scène qui expriment des choses, qui prennent des risques, puis qui montrent autant la force, autant la vulnérabilité à des endroits où que ça serait très fragilisant pour d'autres personnes qui font pas ce cheminement-là au niveau personnel ou au niveau artistique.
Absolument. Merci beaucoup, Éliane Bonnet. Puis on invite les gens à se laisser porter dans votre univers hors du commun du 21 novembre au 9 décembre prochain à l'Espace Libre.
Est-ce que tu... venez nous voir. C'est un beau cadeau de Noël. Il y a beaucoup d'auditeurs, auditrices qui en ont rien à battre des fêtes de Noël, mais il y a plein de parties des fêtes, puis c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Moi, je vous dis, tu sais, quand on dit « faites l'amour, pas la guerre », ben parlons d'amour, parlons pas de guerre. Ce serait le fun que les conversations du temps des fêtes soient ancrées dans qu'est-ce que je veux vivre au niveau relationnel. Est-ce que je suis capable de parler de moi avec mes proches, avec mes relations, avec ma famille, mes familles? Tu sais, est-ce que je suis capable de me révéler puis de vivre des vrais contacts humains puis construire la paix puis l'amour au lieu de parler de la guerre puis d'être juste comme dans le sensationnalisme puis commenter l'actualité qui est parfois déprimante de nos jours. Fait que venez vous nourrir le cœur, vous réchauffer et vous nourrir l'esprit avec nous. Ça va nous faire plaisir d'en discuter après le show. Le bar est ouvert. On n'est pas dans le scénario 2022 où tout le monde a un masque d'en face et c'est la COVID. Là. Les rapprochements sont permis. On va pouvoir discuter après les représentations et avant les représentations également. L'espace est ouvert pour les gens qui veulent arriver d'avance.
Ah, ça, c'est génial. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation.
Au plaisir.
On écoute Café Robinson et on revient avec une entrevue réalisée en 2001 avec Marie-Jo Thériault.
Aujourd'hui, tu m'as dit au Café Robinson, tu m'as dit une fille. C'est comme un livre que tu sais que tu finiras pas. Yeah. Moi j'ai dit holy shit, ça c'est tellement stérile. Qu'est-ce que tu veux dire que tu sais que tu finiras pas? Yeah. C'est comme un livre rendu à la moitié. Quand tu le comprends pas, rendu à la moitié, mais tu laisses faire puis tu t'en vas là-bas. Semblant de sourire, j'ai vu tes yeux à moitié clairs, j'ai vu toutes les filles et toutes les livres que tu refermes pas. Aujourd'hui, j'ai fait semblant de sourire, je voulais juste m'en aller, me sauver de toi, du Café Robinson. Ça se peut même pas. Hey, hey. T'es tellement cool quand t'allumes ta smoke, mais t'es tellement perdu que ça se peut même pas. T'as peur du diable. Toi, tu sais même pas qu'il y a des trous dans tes bas. Que tu connais même pas.
je fais la même chose que toi lorsque j'ai peur du froid. Je veux pas rester au café Robinson à faire des bulles dans ton café. Oh non, 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 pas moi. Je veux pas rester au café Robinson. Moi je veux dessiner des oiseaux qui viennent d'un pays que tu connais même. Rester au café Robinson. Moi, je m'en vais dessiner des oiseaux. Puis faire des trous dans mes bords.
Tantôt, on a entendu Café Robinson.
Oui.
Café Robinson, c'est une de mes chansons préférées sur cet album-là. J'aimerais ça que tu me dises ce qui t'a amené à écrire une chanson comme celle-là.
Aïe, 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 OK. OK, c'est une grosse question, une petite fille. Ça. Moi, je saurais pas comment mettre tout ça en mots, mais sinon qu'à un moment donné, il y a comme des lieux, il y a des êtres, puis on finit par toutes les incarner. C'est comme dans un rêve, hein. Tu sais, dans un rêve, à un moment donné, tout peut se passer partout en même temps. Il y a des gens qui se rencontrent jamais dans la vie qui vont se rencontrer dans des rêves. Café Robinson, c'est beaucoup ça. Faire des chansons, c'est beaucoup ça. Mais Café Robinson, c'est un méli-mélo de certaines mémoires vives que j'avais d'individus, de ma propre histoire en quelque part sûrement. Ça se passe aussi dans un lieu précis, à Moncton, mais ça peut se passer partout. Puis moi aussi, je l'aime beaucoup, cette chanson-là, parce que c'est vraiment une espèce de cri à une capacité d'exister sous toutes ses dimensions. C'est que je dis, je voudrais être large comme le désert, je voudrais couler comme une rivière. Pour moi, c'est ça Café Robinson.
Valérie Lothar, tu as écrit un article sur toi dans le Elle Québec du mois de mai.
Oui.
À un moment donné, elle dit, et je cite, « Le public de Marjo sort de la salle, rien de moins qu'amoureux. » Tu t'as demandé qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il y a peut-être des filles qui sont amoureuses de toi aussi.
Ah! Je pense qu'il doit sûrement y avoir le même rapport, que ce soit une fille ou que ce soit un gars, dans le sens que c'est un rapport avec une chanteuse, hein. Moi, je suis toujours très émue puis très flattée
d'avoir pu toucher les gens quelque part, d'avoir pu toucher une partie importante de leur être, parce que ce que je fais dans les chansons que je propose, c'est, je me révèle énormément dans ma sensibilité, puis il y a beaucoup de vulnérabilité admise, beaucoup d'abandon. Fait que si je peux toucher, je veux dire, un être humain, parce que je veux que ce soit un homme ou une femme, c'est un peu la même chose. Dans le sens que cette personne-là va récupérer quelque chose, ça va la toucher dans une partie de son être et ça lui appartient complètement. Moi, ce que je crois, c'est qu'on rencontre les gens d'une façon très, très particulière. Quand on fait un show, on les rencontre dans un événement, dans une fête, dans une célébration, dans une relation particulière qui est de la chanteuse à l'auditeur. Même si on veut comme tout désamorcer ça, puis on veut plus qu'il y ait de chanteuse, puis on veut juste être une fille, puis qu'il y ait plein de monde, puis c'est juste ça. Il reste que c'est ça pareil. Fait que c'est pas exactement pareil que si tu rencontres quelqu'un dans un café ou je sais pas trop quoi. Mais moi, je sais pas trop mais, quoi répondre à ça. Mais spécifiquement par rapport à une
c'est facile pour une fille qui aime les femmes de s'identifier à tes chansons parce qu'il n'y a pas vraiment de « il » dans tes chansons. C'est vraiment quelque chose qui est ouvert.
Mais je peux imaginer que ça peut être vrai parce que dans les chansons que je fais, que ce soit « il » ou que ce soit « elle » ou que ce soit « it » ou que ce soit... Je crois qu'il y a, y a une fille qui, comme quand je te parlais de Cathy Robinson, il y a une fille qui veut arriver à affirmer, comme je te disais tantôt, le plus de facettes possibles de sa personne. Et ça, je crois que ça fait du bien d'entendre ça. Quand on est une fille, puis on entend ça, on a besoin aussi de tout. Nous, on se dit, hey, OK, il y a comme une partie de notre vibre, là, tu sais, de notre chair qui a besoin aussi de se sentir exister des fois. D'être un petit peu moins passif, un petit peu plus affirmative, peut-être dans... Je sais pas trop quoi penser tout ça, vraiment. C'est comme... Mais c'est vraiment le même embarras que j'ai dans le cas que ce soit une fille qui pourrait ressentir... on dit amoureux. Je sais pas si on tombe vraiment amoureux d'un chanteur, tu sais. On tombe amoureux d'un chanteur, c'est ça. Mais je pense que c'est le même embarras, la même gêne que j'ai, que ce soit par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Je suis très timide. Ça, c'est...
Ça reste quelque chose de flatteur.
Ouais, ben oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est flatteur, hein? J'imagine. Là, c'est bizarre d'être... Ouais, c'est difficile des fois de recevoir. C'est très facile de donner, parfois plus difficile de recevoir. Moi, je suis une de ces drôles de bébites-là aussi.
Tu trouves ça plus facile de donner?
Je pense que faire ce métier-là, c'est juste ça. C'est juste ça, c'est...
Parce que tu fais aussi le métier de comédienne à côté de ça.
Ouais.
Puis dans ton spectacle, tu maries très bien ces deux côtés-là, toi, la comédienne, à ta musique.
Ouais, c'est toute la même affaire et en même temps, c'est pas du tout pareil. Moi, mes patins sont plus aiguisés du côté de l'expérience de chanteuse que celle de comédienne. Mais il y a un tempérament qui s'exprime aussi. Il y a quelque chose qui s'exprime pas tout à fait de la même façon, mais ça fait toute partie du même geste, hein, le même élan. C'est comme on veut... Je dis on veut donner, c'est facile à dire. On veut donner, mais on veut exprimer. Moi, je suis encore quelqu'un qui a besoin d'exprimer sa créativité, sa nature, son tempérament, tout ça. C'est des conduits où j'arrive à le faire. Plus je vieillis, parce que je vieillis, je vais avoir 36 ans au mois de juillet, puis c'est pas vieux, mais tu sais, ça fait 20 ans. Plus j'avance, plus je me rends compte que les conduits sont multiples pour arriver à faire cette chose-là. C'est pas juste la chanson, c'est pas juste le théâtre, ça peut être plein de choses.
Justement, dans le même article de Valérie Letarte, à un moment donné, tu dis qu'une femme qui vieillit embrasse de plus en plus toutes ses dimensions. Est-ce que c'est quelque chose qui te révolte, qu'on attribue moins de valeur à une femme qui vieillit qu'à un homme
qui
prend supposément de la valeur en vieillissant?
Ça me révolte, oui, ça me révolte dans le sens que je trouve ça complètement absurde parce que je sais pas qui c'est qui a inventé cette espèce de code de lecture d'une espèce d'esthétique que je trouve qui est beaucoup plus limitante pour la femme que pour l'homme encore aujourd'hui. Mm-hmm. Puis ça, je trouve ça super plat. Mais par rapport à toutes les choses qui peuvent me révolter, ma façon de réagir à ça, c'est d'inviter les gens à envisager autrement leur façon de voir cette chose-là et pas à cogner des clous ou à dire, bon, ben, à condamner les grands responsables, des choses comme ça. Mais c'est sûr que, je veux dire, que je trouve ça un peu absurde. Je trouve ça un peu absurde que quand on voit les pattes d'oie ou les rides d'un homme qui a 50, 60 ans, qu'on trouve ça magnifique parce qu'il est grisonnant, parce qu'il est petit bedaine. Ben, je dis, ben, my goodness, qu'est-ce qui est plus sexy là-dedans que chez une femme? C'est la même maudite chose, parce que finalement, on parle de plusieurs dimensions. Pour moi, c'est ça. Je veux dire, c'est magnifique. Je sais pas, moi, j'ai des modèles de femmes que j'ai rencontrées qui sont des femmes qui ont aujourd'hui 60, 70, 80, et que je trouve absolument lumineuses. Hey, c'est tellement plus transcendant que tous les petits magazines puis ces affaires-là. Mm-hmm. C'est correct, tu sais, c'est beau ça aussi, c'est super le fun. Mais il y a une question d'habitude de société que je trouve un peu étonnante là-dessus des fois. Hein, quand on y pense, c'est un petit peu fou, là. T'sais.
C'est plein de stéréotypes comme ça qui nous entourent d'étiquettes aussi.
Oui.
Mais moi, je trouve que tu as eu une belle ouverture en acceptant de venir participer à notre émission. Parce que,
comment ça? Parce que,
parce que quand je t'ai spécifié que c'était une émission qui s'adresse à la communauté lesbienne, tu as répondu spontanément que tu voulais parler aux femmes. Puis c'est rare, surtout, qu'ils n'hésitent pas avant de venir parce qu'ils ont peur d'être étiquetés ou...
OK.
Puis je trouve ça vraiment cool de ta part d'être là.
Oui. Non, ben moi, il y a deux choix, c'est de se dire pourquoi je fais une chose, pourquoi je fais pas une chose. Pour moi, j'ai aucune raison de pas venir parler à des femmes qui sont lesbiennes ou des femmes qui sont hétérosexuelles ou des hommes. Tu sais, je veux dire, c'est pas une question que ça m'apparaît très évident là.
Ben c'est fun parce que nous souvent on est limité par ça dans le sens que l'émission s'adresse à la communauté lesbienne. C'est sûr que c'est important d'avoir une émission comme ça parce que dans les émissions hétérosexuelles on n'en parle pas beaucoup des lesbiennes. Donc nous on a cette spécificité là, mais quand même d'avoir
dans le fond il y a beaucoup d'absurdité. On revient à l'idée d'absurdité, mais qui est liée au fait qu'on s'arrête sur quelque chose qui en tout cas moi m'apparaît un détail là, parce que c'est pas à savoir si une femme aime une femme. C'est surtout, je pense que le gros problème là en ce moment, c'est surtout de se dire qu'il y a du monde qui sont pas capables d'aimer. C'est surtout ça qui est épouvantable. Fait que je veux dire, moi je vois pas pourquoi je viendrais pas parler à des gays ou des lesbiennes, ou c'est juste fou là.
Vas-tu tout aller à une autre chanson à Moncton? Est-ce que ça te dit à Moncton ou qu'est-ce que tu mettrais, Marjo, sur comme de la musique?
Sur le premier album, moi j'aime les tunes ou presque, ils sont encore pas mal dépouillés. Peut-être.
On va te laisser choisir la chanson.
OK. Attends, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté celui-là. J'aurais peut-être. Vous voulez quelque chose de doux ou. Ouais, allons-y. C'est une bonne idée, ça, Nathalie.
Yeah. OK. Yeah.
OK, à Moncton.
C'est bon, à Moncton.
C'est boring as well. Et que rien qui va en. À Moncton. C'est weird, pareil pour un samedi soir. À Moncton. Gisèle. I hope je te bother pas. I guess que je faisais rien. J'avais des histoires à te conter. J'ai coaxé Mike at least trois fois pour qu'il vienne watcher un movie avec moi. But il veut rien savoir. Pouvait rien que finir. Ouais, on serait ben à Polly Beach au soleil. Gisèle, qu'est-ce que toi tu fais cet été? Ah, est-ce que t'as déjà trouvé un job full time, un boyfriend pour t'embrasser? C'est boring. Et qu'il y a rien qui va en. À Moncton. C'est weird pareil pour un samedi soir. À Moncton. Because the star. Je voudrais, you say.
Alors, vous êtes de retour à la balade des furies sur les ondes de CKUT 96.3 FM et je suis toujours en compagnie de Marie-Jo Thériault. On vient d'écouter une chanson qui est tirée de ton premier disque, Comme de la musique. Qu'est-ce qui s'est passé entre Comme de la musique et La Maline, qui est quand même assez différent comme album?
C'est ça, parce que ça fait longtemps que j'ai pas écouté le premier. 5 ans. Fait que 5 ans durant lesquels moi j'ai comme gagné beaucoup en liberté un petit peu, parce que quand on a fait le premier album, je dis on parce qu'il y avait Daniel Lavoie qui faisait la réalisation. Déjà, c'est un autre griffe, c'est comme un autre, qu'au niveau des arrangements, au niveau de, c'était autre chose. C'était Marie-Jo, mais c'était une autre enveloppe. Quand on a fait La Maline, 5 ans plus tard, 5 ans après Comme de la musique, on travaillait dans un contexte très, très, très différent. Comme de la musique était fait au studio du Divan Vert à Montréal, avec des horaires très précis, alors que La Maline a été faite avec des horaires très imprécis, à la campagne, chez moi, avec une tout petite équipe, très, très, très autosuffisante, avec pas de sonorisateur, c'est un sonorisateur, mais 2 musiciens que tu connais, Eric Westmillet, que tu connais bien, Bernard Falaise, puis ça a été fait dans un contexte de très, très grand focus. Un mariage, tu sais, c'est qu'on a eu le temps. On a eu le temps, justement, parce qu'on n'avait pas de punch-in, pas de punch-out, de ci, de ça. On a eu le temps de vraiment se rencontrer d'une façon comme peut-être un petit peu plus profonde que dans le cas du premier album. Même s'il y a des choses que j'aime encore beaucoup du premier album, puis je pense que c'est normal, tu sais, dans une carrière, c'est ça, c'est quand les choses évoluent, puis chacun le fait à sa façon. Fait que, ouais, c'est comme... C'est la même personne, mais ouais, il y a 5 ans, quand même, là, entre les 2 albums. Une chance que c'est pas pareil, ce serait juste un petit peu inquiétant.
T'as gagné le prix Jutra pour meilleure actrice de soutien dans Full Blast.
Marie-Lou, ouais.
Pour Marie-Lou. Puis, même ta façon de jouer est différente. Comme, on voit une belle évolution.
Une chance.
T'avais quel âge, Marjo, la première fois que t'as écrit un texte de chanson?
13 ans.
13 ans, et ça parlait de quoi? Est-ce que c'est point de discussion?
Avant ça, il y avait des petites affaires. Okay. De quoi ça parlait? C'était des chansons d'adolescence, tu sais, c'était des chansons d'adolescence. C'était un petit peu la petite fille de la chanson à Moncton, en quelque part, qui écrivait des chansons, tu sais, qui perçait une écorce un petit peu, parce que moi, quand j'avais 13 ans, j'étais vraiment une petite fille. J'avais l'air d'avoir 9 ans, je pense, quelque chose comme ça, 10 ans. J'avais des petits paradoxes, des parties de moi qui étaient très guerrières, un petit volcan à l'intérieur, mais aussi quelque chose de très contemplatif, puis comme plus retiré aussi. Fait que toutes ces contradictions-là, quand j'avais 13 ans, mais il fallait que je les file tant quelque part. Puis il y avait un piano. Fait que les chansons, c'était ça, là. Je peux même pas te dire. Il y avait des fleurs, il y avait des âmes qui flottaient partout. Il y avait sûrement une couple de papillons. C'était sûrement très harmonium, là. Mais j'avais ça, en tout cas. J'avais le sens de la mélodie. J'avais pas de voix, parce que j'étais trop timide pour vraiment donner de la voix. C'est chanter tout cas. Petite chanson comme ça.
Puis, tu sers encore beaucoup tes éléments, de la nature, de couler comme une rivière.
Je te dirais que dans le cas de La Maline, c'est particulier parce que c'est inspiré du lieu aussi où j'habite depuis un certain nombre d'années. Mais oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est des images très, très simples que j'emploie encore aujourd'hui, qui sont encore le vent, la pluie, l'oiseau de paradis. Toutes ces choses-là, c'est pas de la grande fouille dans le lexique là, pendant des heures, puis des heures, puis des heures, mais c'est des choses qui me parle beaucoup.
À nous aussi, c'est la
simplicité. Tant mieux.
Est-ce que ton piano, il était chez toi? Est-ce que ça vient de ta famille, le goût de faire la musique?
Oui, le piano, il a dû rentrer genre en 70.
En 70?
Dans la maison.
T'étais née, toi,
puis,
en 70?
Moi, j'étais née, j'avais 5 ans. Puis ma mère était une femme très, très, très revendicatrice, une personnalité assez forte, puis qui était nationaliste. Des années très nationalistes en Acadie, puis je suis arrivée au Québec, j'avais 17 ans. Et le piano est rentré, puis c'est elle qui s'en est servie en premier, parce qu'elle avait un immense besoin d'exprimer son talent. Elle en avait un, elle aussi, un grand talent de chanteuse et tout ça. Puis moi, j'étais comme une petite fille, je la regardais faire ça et je me disais, waouh, on dirait qu'elle vole. J'avais envie de faire ça, j'avais envie d'avoir accès à ça. Puis je m'y suis prise autrement, je suis rentrée par un autre chemin, qui était plus peut-être la nature d'un auteur-compositeur que celle d'une interprète. Mais j'ai commencé à faire du piano, j'avais 6 ans. Puis j'ai fait ça longtemps. C'est une formation classique, là, avec tes bonnes sœurs, là.
Puis c'est ça. Fait que j'imagine qu'ils ont dû trouver que c'était un drôle d'oiseau, les bonnes sœurs, tu sais, parce que fallait aller au, genre, ça se faisait dans un couvent, là, tu sais, on allait là, puis on faisait des cours, puis c'est plein de cours, là, tu sais, là, on dictait solfège, musique, ta. Fait qu'on faisait ça, ben, genre, 12, 13 ans, comme il faut, j'ai fait ça à Moncton, puis après ça, oh non, plus que ça, excuse, 14 ans. Puis là, après ça, j'ai tout oublié. Là, quand j'ai commencé à patauger, là, à faire des pattes de mouche, là, toute seule et de façon plus indépendante que studieuse, j'ai eu accès à quelque chose, tu sais, c'était le fun, là.
Parce que quand on te voit en spectacle, je sais pas si les sœurs après.
Les bonnes sœurs, ils veulent
te lever puis jouer ton piano en te levant debout, t'es très spontanée.
Ben, il y avait des épisodes que je trouve extraordinaires, tu sais. Moi, j'ai changé 3 fois de professeur parce que je pense que vraiment, mais à un moment donné, là, j'en avais une qui était super cool à la fin, tu sais, ça Colette que ça plaît. Puis mais j'arrivais là, puis si on avait des petits exercices publics, tu sais, devant des auditoires, puis j'avais, je sais pas moi, genre 12 ans, 13 ans, je commençais à partir dans un bac, et là j'avais un vrai blanc de mémoire. C'était des, ils nous faisaient jouer des inventions de bac, là, c'est l'affaire, c'est de la mathématique, tu sais, je trouvais ça. Puis à un moment donné, j'oubliais la toune. Je la jouais devant le public, puis là, j'oubliais la toune et je me mettais à partir une autre mélodie. Je partais une autre mélodie et là, je terminais ça et je retombais sur mes pattes. Puis les bonnes sœurs, ils étaient complètement révoltés parce que ils m'avaient, tu comprends qu'ils avaient travaillé fort pour m'apprendre ma leçon, puis là, c'était comme... Mais je crois que c'est un petit peu ça encore qui se passe quand on fait des spectacles. Et quand je fais des spectacles aujourd'hui, je me rends compte que ça vient de loin, dans le sens que ça vient de... C'est comme d'avoir l'impression que tu peux. T'as le droit de tout faire. J'ai l'impression d'avoir le droit de tout faire sur scène. Et je sais que je vais retomber sur mes pattes. Et je sais que si j'ai quelque chose à faire dans ce métier-là, c'est de rester dans cet endroit-là parce que c'est bien correct comme ça, tu sais. Ben c'est bien correct comme ça. Même si on travaille très fort, là, tu demanderas à Eric West, tu sais, quand on fait de la musique, on est très, très
sérieux. Il y a quand même une place à l'improvisation. Ça, ouais. C'est chouette parce que c'est rare. Habituellement, la chanteuse arrive en avant, elle fait son choix, fait ses tunes. Puis...
Ouais, mais t'as dû entendre, t'as dû voir. Il y a quand même un canevas.
Mais en même temps, c'est comme à chaque fois, c'est la redécouverte de Freddy, qui est ton personnage. Okay. C'est comme, OK. Il y a tout le temps quand même des éléments qui sont un peu différents, qui font que tu t'emmerdes pas, même si tu vois le spectacle plus d'une fois. Okay.
Mais c'est ça. Puis en même temps, il ne faut pas exagérer. Je ne peux pas dire qu'on fait de l'improvisation libre, là, complètement débridée.
On sent que tu suis ton histoire, mais en même temps, tu te laisses aller, vraiment.
C'est ça. On se laisse aller. Moi, la raison aussi pourquoi je peux faire ça en spectacle, c'est parce j'ai la chance aussi de travailler avec... Travailler est un mot qui n'a pas d'allure, mais que j'ai la chance de faire de la musique avec des gars qui sont vraiment pas déconcertés par cette chose-là, qui ont la même capacité de flotter et en même temps d'être hyper groundé en quelque part. Et ça, c'est comme... C'est le fun parce qu'eux autres aussi, ils peuvent me relancer. Ils peuvent aussi m'envoyer des petits clins d'œil, des affaires coquines. Fait qu'on peut se taquiner.
C'est vraiment une belle interaction avec eux.
Ouais, toi. C'est super le fun. Ouais.
On va écouter Another Love Song About Paris.
Ouais, ah ouais, OK.
Another Love Song About Paris. You have lovely eyes. But who are you?
I'm an April fool, I'm a fool for you in Paris. I'm an acrobat, I'm a crazy cat. Tell me where I'm at dans ma vie. I'm an April fool, I'm a fool for you. Paris. If I shut my eyes and I tell a lie, is it good enough for me?
Sometimes it's better to shut your mouth.
On était tous sur la super terrasse de Gilbert à Paris avec Keiko, la babe de porcelaine qui souriait tout le temps. Il y avait Sylvie puis Nathalie qui se disputaient pour le même gars. Puis il y avait moi. Moi, je vous en parlerai même pas. On était tous sur la super terrasse de Gilbert à Paris. Il y avait de la joie, il y avait de la joie qui shine partout. Il y a personne qui avait bu. Puis pourtant, tout le monde était ben sous. En tout cas, tout le monde en avait vraiment pris un coup.
Is it good enough for me?
Nous sommes de retour avec une entrevue qui date d'une vingtaine d'années avec Marie-Jo Thériault qui nous parle de sa chanson « Jam à Beaumont ».
C'est une fin d'album, mais c'est aussi une espèce de... Il y a une espèce de grand sens du risque dans cette chanson-là, qui est celui de, d'aimer, de l'abandon. Puis c'est une grande fresque, là. Tu sais, c'est comme, c'est très romantique. C'est très romantique parce que quand tu dis à quelqu'un, tu dis, qu'est-ce que tu penses qu'on va s'aimer avant la fin du monde? Puis, c'est que t'es enveloppé. Il y a quelque chose. T'as une enveloppe assez romantique pour t'exprimer comme ça. Mais en même temps, il y a comme une espèce de petit nuage ou de petite maline qui rôde pas loin. Puis c'est pour ça que quand j'ai enregistré Jam à Beaumont, c'est la seule chanson qui a été enregistrée live. Ça a été enregistré dans un petit bar qui s'appelle le Bar au Deuxième à Moncton, où je retourne souvent. Et ce soir-là, il y avait une immense pleine lune. Et c'est pour ça que je l'ai gardée sur l'album. C'était un 28 avril, un soir de pleine lune 98. Et ça a été enregistré. Et j'avais l'impression, pendant que je chantais cette chanson-là, parce que tout est linké, qu'il y avait une maline qui rôdait pas loin. Et c'est pour ça que je dis, il y a une plongée dans l'abandon, mais comme une... C'est un peu... c'est très... C'est un petit peu fataliste quelque part aussi, tu sais. Mais c'est rempli d'espoir, puis c'est un amour qui est très naïf en même temps, tu sais. Je l'aime beaucoup, cette chanson-là.
Moi aussi, je voulais savoir, la maline, justement, pendant que t'en parles, tu fais référence à quoi?
La maline?
Quand tu prends ton album comme ça?
Ouais. Non, la maline, c'est... j'ai appelé l'album comme ça pour toutes sortes de raisons, mais c'est, à un moment donné, on parlait de la France tantôt, là, puis j'étais allée faire une coupe de show là-bas, avec juste l'accordéon, puis le piano, puis tout. Puis à un moment donné, j'étais assise sur le bord de l'océan, puis c'était dans... coin de Poitou-Charentes, là, pas loin de La Rochelle, avec l'accordéon. Puis, à un moment donné, il y a eu une espèce de... J'ai un ami qui m'a parlé d'un phénomène qui avait plus rapport avec les marées. Puis, il m'a dit, ah, tu sais, il dit Marie-Jo, il dit, quand l'océan se... Anyway, la maline, là, c'est la pleine lune. Pour moi, en tout cas, la maline, c'est la pleine lune quand elle est de mauvaise humeur.
Mais tu mets quand même de la joie dans tout ça.
Ah, ben oui! Ben oui! Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est l'album La Maline commence avec La Maline, mais en quelque part, la trajectoire de cet univers-là, il se termine avec un arbre à fruits aussi, là.
L'émission se termine. Oh. Mais je veux absolument que tu reviennes avec tes musiciens jouer live ici.
Oui.
À un moment donné, on va te garder une place pour ça.
Great.
Bon, merci beaucoup d'avoir été là, Marie-Jo.
OK, merci.
T'es tellement smooth. Quand tu joues des perks, quand tu fais shiner les étoiles, puis mon âme aussi. Tes cheveux, tes mains, tes yeux, tes cheveux, tes mains, tes yeux. T'es tellement smooth quand tu joues des perks. Veux-tu qu'on joue une game, veux-tu qu'on fume une smoke, qu'on se dise plein de secrets que personne d'autre entendra.
personne d'autre n'entendra jamais. Crois-tu qu'on va se parler avant la fin du monde? Quand la crowd se ressoule, puis juste un petit peu stone. Si je pouvais juste trouver ce soir un beau moment, quelque chose qui te turn un petit peu en. Tellement smooth. Ok, ma belle histoire va commencer. Faudrait que j'éteigne le feu, puis mes yeux avant qu'il soit trop tard. Sais-tu mon cœur? Sais-tu mon cœur encore une fois? Ou sais-tu toi? Crois-tu qu'on va se parler? Crois-tu qu'on va s'aimer avant la fin du monde? Quand la crowd se ressoule, puis je sens un petit peu stone. Si je pouvais juste trouver ce soir quelque chose qui te que je te ferai souffrir. Peut-être que tu me ferais mourir. Mais il n'y a plus de héros nulle part, plus personne qui risque rien, pire l'hiver qui s'en vient. Tes cheveux, tes mains, tes yeux. Sous la lune, à vos mains.
Merci à notre invitée Eliane Bonin. Vous pouvez vous procurer des billets pour les érotisseries sur le site de l'Espace Libre. Vous avez jusqu'au 9 décembre pour voir la pièce. Merci encore à Marie-Jo Thériault d'avoir eu l'ouverture et la générosité il y a 22 ans de venir en studio. Et pour la période des fêtes, vous aurez l'occasion de réentendre ou d'entendre des émissions en rediffusion. Joyeux temps des fêtes et prenez soin de vous. Bonne fête soirée.
Mon chien. c'est quand la récolte, c'est quand le party, le party. Oh, le beau bateau, le beau château, la belle histoire. Reviens pas me conter des histoires à vos bras fruits.
Dans leur rapport à l'élégance, les hommes et les femmes branchés signent et endossent le magasin Marco Mode Unisex, leur nom de confiance depuis 28 ans. Marco Mode Unisex, en partenariat avec Franklin Mann Design, vous offre dans la robe que vous porterez, mesdames, la beauté, la magie, le modernisme, le style. Si l'élégance et le chic ont un nom, messieurs, ce nom, c'est le magasin Marco Mode Unisex, partenaire de franklinmanndesign.com. Marco Mode Unisex, 9205 Saint-Michel, pour les hommes et les femmes qui veulent habiller leur beauté. Pour plus de renseignements, tapez marcomode.ca ou téléphonez au 514 322 83 66.
CKUD, CKUD 90.3 FM.
The following is a previously broadcast program. Directions on how to use your radio. Find the power button. Turn it to on. Turn the knob to CKUT 90.3 FM. Relax and enjoy.
You're listening to CKUT 90.3 FM. This is Underground Sounds. I'm going to be your host today. My name's Alyssa. Stay tuned for 2 hours of all Montreal-based music coming your way.